Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj à Paris. La France est accusée par le gouvernement libyen de cultiver l'ambiguïté à l'encontre de son rival, le maréchal Haftar. Analyse de Bertrand Galichet dans ce journal.
Et puis en Afrique du Sud, le vote de l'élection présidentielle a lieu aujourd'hui. Nous dresserons le portrait du favori de ce scrutin.
Cyril Ramaphosa de l'ANC, le parti de Nelson Mandela, qui a promis de lutter contre la corruption. Un an après la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, la population iranienne paye au quotidien les conséquences du retour des sanctions économiques. Reportage à Téhéran dans un instant.
50 milliards de tonnes de sable sont extraites chaque année. C'est la deuxième ressource naturelle la plus exploitée au monde.
Et cette surexploitation inquiète l'ONU qui pointe de lourdes conséquences sur l'environnement avec l'accroissement de l'érosion et des inondations. Précision de Jérémy Lange dans un instant.
Et puis en France, Emmanuel Macron est entré en campagne pour les élections européennes hier de manière informelle.
Oui, le président de la République a dîné avec la tête de liste de la majorité et ses colistiers, ainsi que François Bayrou notamment, on y reviendra. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Sophie, maladie de Lyme, pourquoi tant de polémiques? Je poserai la question au professeur Christian Perron, qui est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches.
À Paris, le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj est attendu aujourd'hui. Après Rome et Berlin, il espère réunir des soutiens diplomatiques face à l'offensive militaire menée en Libye par son rival, le maréchal Khalifa Haftar. Alors même que les troupes loyales au maréchal ont annoncé cette nuit avoir abattu un avion de chasse des forces du gouvernement d'Union nationale au sud de la capitale Tripoli, le chef du gouvernement libyen a souvent accusé la France de soutenir Khalifa Haftar, une politique française qui présente plusieurs ambiguïtés dans le dossier libyen, effectivement, Bertrand Galichet.
Lors de cette visite, la France renouvellera son soutien au gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Paris a déjà réfuté tout parti pris en faveur de son adversaire, le maréchal Haftar. Pour autant, le Quai d'Orsay reconnaît, selon les mots de Jean-Yves Le Drian, que personne aujourd'hui ne détient un mandat du peuple libyen. Le ministre français des Affaires étrangères y voit même l'une des raisons majeures de la crise en Libye. Voilà pourquoi la France plaide pour des élections sous l'égide des Nations Unies et considère que Khalifa Haftar fait partie d'une solution politique. Paris, qui a organisé des rencontres entre les deux rivaux en 2017 et 2018, a une autre raison de ménager l'homme fort de la Cyrénaïque. Le maréchal Haftar est considéré comme un allié précieux dans la lutte contre le terrorisme jusqu'aux confins du Sahel, tandis que certains critiquent l'immobilisme de Fayez al-Sarraj et sa faible légitimité politique, d'où les soupçons de double jeu dont la France fait l'objet dans le dossier libyen, peut-être simplement une façon de ne pas insulter l'avenir.
Alors que les troupes du maréchal Haftar, après une progression rapide, piétinent désormais depuis plus d'un mois aux portes de Tripoli face aux forces loyales du gouvernement d'Union nationale. En Iran, cela fait un an jour pour jour que les États-Unis sont sortis de l'accord sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. Les États-Unis ont décidé de ramener à zéro les exportations pétrolières du pays pour tenter d'asphyxier l'Iran. Washington espère ainsi obtenir l'arrêt du programme nucléaire iranien et un changement radical de sa politique régionale. Avec le retour des sanctions économiques, les conséquences sont lourdes sur le quotidien de la population iranienne. À Téhéran, c'est un reportage de Siavosh Ghazi, correspondant de RFI pour France Culture.
Sous l'effet des sanctions américaines imposées progressivement depuis un an, le rial iranien a perdu plus de 60% de sa valeur et l'inflation dépasse désormais les 50%. Pour une majorité d'Iraniens, la vie devient tous les jours plus difficile, comme l'affirme Hossein, un chauffeur de taxi de 43 ans, entouré de ses collègues.
70 à 80% des gens vivent sous une pression très forte. Les prix des produits de consommation courante ont augmenté d'au moins 100%, mais certains produits ont même augmenté de 400%. C'est mieux qu'on fasse directement la guerre, soit on meurt, soit...
Hossein ne finit pas sa phrase. Comme beaucoup d'Iraniens, il craint une aggravation de la situation économique avec les nouvelles sanctions américaines. L'espoir créé par l'accord nucléaire de 2015 a cédé la place au désespoir. Et beaucoup accusent les États-Unis comme Ali, un homme d'une cinquantaine d'années.
Que les États-Unis soient honnis pour ce qu'ils font avec notre peuple. Que veulent-ils? On ne peut plus rien acheter. Ce sont les petites gens qui trinquent. Ça ne peut pas être pire que ça pour nous.
Face aux pressions américaines, le pouvoir iranien ne semble pas vouloir céder et prendre la résistance. Le président Rouhani pourrait même annoncer la reprise d'une partie des activités nucléaires en représailles aux sanctions américaines.
Siavosh Ghazi, à l'instant, Téhéran annonce suspendre certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord du nucléaire iranien en 2015. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, sans préciser pour l'instant de quels engagements précisément il s'agit.
Et nous partons maintenant en Afrique du Sud, où les bureaux de vote au premier tour de l'élection présidentielle ont ouvert, puisque ce premier tour a lieu aujourd'hui, Sophie.
Oui, tout à fait. L'ANC, le parti historique de Nelson Mandela, est le grand favori. Le parti du Congrès national africain recueille plus de 55% des intentions de vote, selon les derniers sondages. À sa tête, on retrouve Cyril Ramaphosa, qui est actuel président par intérim, après la démission forcée de Jacob Zuma l'an dernier. Ramaphosa prône deux objectifs majeurs, tourner définitivement la page des affaires de corruption des années Zuma et donner un nouveau souffle à la nation arc-en-ciel. Précision depuis Johannesburg de Noé Ochebaudin.
Relancer la croissance et nettoyer l'ANC de ses politiciens corrompus, ce sont les deux défis que s'est lui-même donné Cyril Ramaphosa.
Nous devons agir contre la corruption et la collusion. Nous devons enquêter sans peur et sans faveur. La corruption doit cesser et cela doit avoir lieu sans délai.
Il a promis d'attirer plus de 100 milliards de dollars d'investissement dans l'économie sud-africaine. Selon Sarona, une militante de l'ANC, il est l'homme de la situation.
C'est le meilleur. Les gens nous disent, nous sommes heureux que vous ayez Cyril Ramaphosa et nous allons voter pour l'ANC grâce à votre président.
Ancien très proche de Mandela, avec qui il avait une relation quasiment paternelle, Ramaphosa a fait un crochet par le monde des affaires et avec succès puisqu'il est devenu la 10e fortune d'Afrique du Sud, qui est, on le rappelle, le pays le plus inégalitaire du monde. Pas un problème pour Ben, qui votera ANC aujourd'hui.
Non, ça m'embête pas. C'est bien d'être dirigé par quelqu'un qui a le sens des affaires. Il a réussi dans sa vie, il a beaucoup de contacts, donc il va pouvoir amener la croissance en Afrique du Sud.
Avant de peut-être devenir l'homme providentiel pour le pays, Cyril Ramaphosa l'est au moins pour son parti. Il est probablement la dernière chance pour l'ANC de freiner sa chute dans l'opinion sud-africaine.
Noé Ochebaudin en Afrique du Sud pour France Culture. C'est la deuxième ressource naturelle la plus exploitée au monde après l'eau. La surexploitation du sable provoque notamment érosion et inondation. 50 milliards de tonnes de sable sont extraites chaque année dans le monde, en particulier en Asie, de loin le premier consommateur mondial, Jérémy Lanche.
Les bâtiments, les routes, la fabrication de verre, de matériel électronique, de cosmétiques. Notre société moderne est littéralement construite sur du sable. La ressource ne manque pas, mais la surexploitation est une menace permanente pour l'environnement. Premier concerné, l'Asie. Pascal Peduzzi, du programme des Nations Unies pour l'environnement.
Si vous avez été en Chine dernièrement, vous pouvez voir, on a l'impression que ces grands gratte-ciels sont comme une imprimante 3D, et tellement ça va vite, ce développement. Donc il y a une verticalisation de l'habitat en Chine, également en Inde. La Chine, en une année, a construit 140 000 km de route. Si vous prenez juste le barrage des Grandes Gorges, imaginez la masse que ça représente en termes de béton. Sur le ciment, on voit que la Chine utilise actuellement 57% du ciment mondial. Les principaux pays sont clairement l'Inde et la Chine en volume. Maintenant, si on prend par habitant, là c'est plus surprenant, c'est Singapour. Parce que comme je l'ai montré, Singapour a augmenté de 20% son territoire. Maintenant, Hong Kong planifie de faire la même chose, d'étendre son territoire sur la mer est quelque chose qui, évidemment, du point de vue économique, extrêmement bénéfique. Pas de problème du point de vue environnemental et social, ça va avoir des impacts sur les rivières environnantes.
Pas de croissance économique et démographique sans surexploitation, donc, et pas de surexploitation sans le développement d'une véritable mafia du sable. Le phénomène est impossible à quantifier. N'importe qui, avec une pelle et un camion, peut s'improviser trafiquant de sable et revendre le tout à des grosses compagnies actives dans la construction. On ne sait pas si des géants européens comme le franco-suisse Lafarge Holcim sont touchés, mais l'ONU demande plus de transparence dans le commerce du sable et aussi la limitation de projets pharaoniques peu utiles pour le développement.
7h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Sophie Delpont et une visite surprise d'Emmanuel Macron hier soir. Pour soutenir la liste de la majorité présidentielle aux élections européennes.
Oui, le chef de l'État a rejoint hier soir la tête de liste Nathalie Loiseau et une trentaine de ses colistiers pour un dîner organisé au restaurant du Palais de Tokyo dans le 16e arrondissement de Paris. Autour de la table, on trouvait également le ministre de la Culture, Franck Riester, ou encore les chefs du Modem, François Bayrou, et du mouvement radical, Laurent Hénard. Emmanuel Macron n'a pas pris la parole hier soir, mais il a fait savoir par son équipe qu'il s'agissait de participer à une réunion de travail et de donner une impulsion à la campagne des européennes. Un peu plus tôt, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, l'implication du président de la République dans la campagne faisait débat, Steven Goyer.
d'un Emmanuel Macron, toujours perçu comme l'incarnation du projet européen porté par la liste de Nathalie Loiseau et qui, à ce titre, doit donner de la voix à 18 jours d'un scrutin décisif pour la majorité. C'est notamment l'analyse qu'en fait le député de la Vienne, Sacha Houlier.
Pour poursuivre le projet français et pour parfaire finalement beaucoup d'engagements que nous avons pris en matière fiscale, en matière sociale, en matière environnementale, nous avons besoin du président de la République et que son projet soit validé par les Européens et par les Français en premier lieu. Assumons totalement que nous, nous sommes pour reconstruire, pour réformer, pour rénover l'Union Européenne et que la meilleure figure de proue, que la personne qui est la visionnaire en la matière, c'est le président de la République.
Donc en meeting.
Pourquoi pas ?
Et puis il y a ceux qui doutent de la pertinence d'une telle intervention pour éviter une confusion des rôles, éviter aussi le sentiment de centralisation de la parole de la majorité, mais aussi pour le député LREM du Rhône, Bruno Bonnel, parce que la liste actuelle peut s'en sortir seule.
Cette liste, elle va s'en sortir, ce Emmanuel Macron. On est la seule liste pro-européenne, c'est le président de tous les Français, il n'a pas à prendre part dans une élection qui, de cette caractère-là, est partisane. Le gouvernement est derrière nous, il le dit tous les jours, il y a eu des meetings avec le Premier ministre. Quant à la parole présidentielle, elle a encore été importante sur l'Europe, au niveau de l'Europe verte. Donc la présence, j'allais dire, du président de la campagne européenne, elle est suffisamment soulignée pour pas qu'on ait à insister.
Un engagement qui pourrait aussi être à double tranchant pour l'exécutif en prenant le risque de nationaliser le scrutin des européennes et d'accentuer l'idée d'un référendum pour ou contre le président de la République.
Steven Goyer. Dans les sondages, la liste de la majorité présidentielle arriverait derrière celle du Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen. La tuberculose est de nouveau en augmentation en Île-de-France. 2000 cas recensés. Le département de la Seine-Saint-Denis enregistre 4 fois plus de cas que les autres départements de la région. La tuberculose fait plus d'1,5 million de morts chaque année dans le monde par manque de soins. De la pluie presque partout aujourd'hui. Ce matin, seule la Corse et le littoral des Pyrénées-Orientales seront à l'abri des averses. Cet après-midi, des orages sont annoncés sur l'ensemble du quart nord-ouest. Les températures sont douces dès ce matin avec en moyenne 10 à 19 degrés. 10 degrés à Annecy, 13 degrés à Paris et à Lyon, 14 degrés à Nice et Bordeaux, 16 degrés à Perpignan jusqu'à 19 degrés à Ajaccio.